avec nous pour discuter d'un thème que je ne sais plus d'ailleurs, c'est le théâtre face ou dos tourné au monde. Je présente d'abord les différents participants. Daniel Lemayeux, auteur dramatique et enseignant, Université Paris 3, Roland Fouchet, auteur dramatique et bien autre chose. Bon, Catherine Regrette, qui est professeur, qui est vraiment au sens immédiat, professeur à Paris 3, l'étude théâtrale, Michel Binaver, vous connaissez, et Jean-Pierre Ringard, qui est également professeur à Paris 3. Alors je voudrais commencer par vous lire un petit texte qui a été écrit à Vincennes il y a 30 ans, que voici, et vous me direz si vous reconnaissez la signature. La réalité sociale de 1975 nous apparaît comme une mosaïque d'univers inégaux et imperméables les uns aux autres, dont on nous cache le fonctionnement. Pour la raconter, tenter d'en faire comprendre les ressorts, nous choisissons de la recréer par les moyens du théâtre. Nous voulons montrer la farce de notre monde, créer une fête sereine et violente en réinventant les principes de théâtre populaire traditionnel. Nous voulons réinventer des règles de jeu qui dévoilent la réalité quotidienne en la montrant non pas familière et immuable, mais étonnante et transformable. Nous essayons de créer un théâtre de la représentation où tout geste, toute parole, toute intonation ait son importance et soit un signe immédiatement perceptible par le spectateur. Nous désirons un théâtre en prise directe sur la réalité sociale qui ne soit pas un simple constat, mais un encouragement à changer les conditions dans lesquelles nous vivons. Nous voulons raconter notre histoire, avec un grand H, pour la faire avancer, si tel peut être le rôle du théâtre. Signé, Mnouchkine, c'est l'âge d'or. Alors, en contrepoint de ce texte, je vous lis quelques lignes de quelqu'un qui, évidemment, ne va pas du tout dans le même sens. C'est l'avertissement du balcon de Genève, 1962. Et il dit ceci. Quelques poètes, de nos jours, se livrent à une très curieuse opération. Ils chantent le peuple, la liberté, la révolution, tout ça avec des majuscules, bien sûr, etc., qui, d'être chantés, sont précipités puis cloués sur un ciel abstrait où ils figurent déconfits et dégonflés en de difformes constellations. Désincarnés, ils deviennent intouchables. Comment les approcher, les aimer, les vivre, s'ils sont expédiés si magnifiquement loin? Écrits parfois somptueusement, ils deviennent les signes constitutifs d'un poème, la poésie étant nostalgie et le chant... Et le chant détruisant son prétexte, nos poètes tuent ce qu'ils voulaient faire vivre. Je me fais mal comprendre, peut-être, ajoute Genet. Ceci dit, si vous me permettez de dire quelques mots à l'introduction, je crois que le titre doit être expliqué, puisque quand on dit face ou dos tourné, ça veut dire que le monde est toujours là. C'est-à-dire que si c'est de face, on l'attaque, on le regarde, on l'agresse. Si c'est de dos, on s'appuie sur lui, on s'appuie contre lui. Et puis, il y a une troisième formule qui est l'oblique, qui n'est ni la face ni le dos, mais l'oblique qui est assez bien représenté, beaucoup plus représenté qu'on ne pourrait penser dans ce domaine du théâtre du monde. Donc, le théâtre du monde, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que le monde, c'est le grand et le petit monde, le micro et le macrocosme, qui naturellement ne sont pas indépendants l'un de l'autre, mais articulé, comme vous en doutez, ce qui permet d'aller du social au politique. Et on pourrait, alors, je n'irai pas trop loin tout de suite, mais on pourrait parler d'un théâtre de l'actualité qui parle du monde sous la forme du quotidien, de son langage, de ses problèmes de tous les jours, d'un théâtre de l'événement, l'événement au sens propre et fort du terme, c'est-à-dire quelque chose d'exceptionnel, et de significatif du même coup, et puis d'un théâtre de l'histoire, qui n'est pas un théâtre historique obligatoirement, loin de là, puisque tout théâtre de l'histoire peut être, mais ne doit pas être forcément un théâtre historique. Donc lui, ce théâtre de l'histoire, avec un H naturellement majuscule, qui engage des choix essentiels pour une bonne part de l'humanité. Tout ça naturellement avec presque toujours, peut-être pas pour le théâtre numéro 1 de l'actualité, le théâtre numéro 2, toujours avec un certain recul, surtout en ce qui concerne le théâtre historique, de telle sorte qu'on ait affaire à une part, on pourrait dire, de problématique. Alors comment faire un théâtre du monde ? Et bien entendu, et c'est la grande difficulté, qu'il s'agit d'articuler le singulier et le collectif, le particulier et le général. Il est bien entendu que, d'autre part, quand on parle de réalisme, on est soit en train de mentir, soit en train, évidemment, de cacher son jeu, ce qui est une façon de mentir, mais mentir n'est pas forcément un péché en ce qui concerne le théâtre, loin de là. Si on était véritablement réaliste, on aboutirait à l'insignifiance, et c'est justement ce que l'auteur dramatique évite. Quelle forme de théâtre pour dire le monde ? Plusieurs formes, théâtre document, pas tellement bien représenté en France, mais peut-être qu'aujourd'hui, on a là avec nous quelqu'un qui a fait une forme de théâtre document sous forme du montage, dont on parlera. Un théâtre parabole qui est évidemment très bien représenté, le théâtre de la fable orientée, bien sûr, qui dit une chose mais qui en laisse entendre une autre, c'est la fameuse notion de détour dont parle Sarrazac, et puis un théâtre historique qui utilise le passé pour dire le présent. Quelle finalité pour ce théâtre ? Et là, peut-être, on peut réserver ça pour plus tard. Pour l'instant, on peut se lancer avec ces éléments-là, si vous voulez bien, ou d'autres que vous voulez proposer. Messieurs, Michel, si tu veux bien.
Une chose qui me vient à l'esprit en écoutant la citation de Mnouchkine, c'est qu'elle mettait en avant pour faire le théâtre qu'elle rêvait, la non-hiérarchisation. La non-hiérarchisation des éléments qui viennent composer un spectacle, contrairement d'ailleurs à Genet, puisque Genet, c'est très architecturé avec le ciel, la terre, etc. Et autant je me sens avoir peu de relations avec le théâtre que fait Mnouchkine, autant cette non-hiérarchisation et notamment l'intérêt pour le petit et d'arriver à voir le grand par le petit, le trivial, le banal, etc., etc. Là, ça m'a touché d'entendre ces propos.
Mais oui, tu pourrais parler en ton nom propre, et ça me fait plaisir.
Bon, oui, enfin... Moi, je suis du côté de l'oblique, en tout cas, ni du frontal, ni du dorado, ça c'est certain. L'oblique, c'est le moyen, je crois, le plus rapide et le plus court pour aller d'un point à un autre quand on écrit dans la forme dramatique. Alors, dire l'oblique, ça veut dire aussi, d'une certaine façon, le refus du frontal, le refus du massif, le refus de ce qui est la confrontation d'une vision, d'une opinion, d'un jugement à l'égard du réel, à l'égard de ce qui se passe, par exemple la guerre. Bon, ben, de dire par le moyen du théâtre je suis contre la guerre ou je suis contre telle ou telle catastrophe agencée par l'homme, etc., je pense que très vite, ça donne des satisfactions à des gens qui sont déjà contre ces catastrophes et contre la guerre et contre la torture, contre les massacres et ainsi de suite. Ça leur fait plaisir et c'est totalement inefficace et non agissant. L'oblique, c'est une façon de surprendre plutôt que de choquer. Et de surprendre par... je ne crois pas que c'est le sens que Sarrazin donne au mot détour, mais de surprendre par le fait que, à un moment donné, le spectateur ou le lecteur se trouve décalé par rapport à son attente, par rapport à ses idées reçues, par rapport à son environnement, et voit les choses qui lui sont familières d'une façon un peu différente, un peu différente et donc un peu secouante, disons. Dès lors qu'on est un peu secoué, ben c'est déjà une grande partie de ce qu'on peut espérer du théâtre qui est gagné. Je crois que le théâtre n'a plus aujourd'hui de visée eschatologique, de changer le monde et de faire la révolution, mais il peut petitement amener des, par petites secousses successives, amener des modifications de point de vue, puisque on va peut-être parler de point de vue, de point de vue, et ceci m'amène à évoquer une découverte que j'ai faite par le canal de Catherine Nogret, ici présente, qui m'a en fait mis en face du fait que la chronique dans les textes dramatiques avait une certaine place. Et la chronique, c'est quoi? La chronique, c'est l'enregistrement de ce qui s'est passé sans commentaire, sans, en disant exactement ce qui s'est passé, très méticuleusement ce qui s'est passé, et sans qu'il y ait la coloration d'un commentaire. Voilà, alors, je crois que j'en ai pour l'instant assez dit. À partir de cette remarque sur la chronique, on pourra évoquer peut-être au septembre 2001.
Oui, bien sûr, mais peut-être que Catherine va développer cet aspect-là. Moi, j'aimerais bien lui demander si elle estime que le vinaigre des Corinthiens est un oblique. La pièce date de 56.
Oui, je pense que dès le départ, c'est le même geste qui est à l'œuvre. Et moi, ce que j'avais trouvé particulièrement intéressant dans l'écriture de Michel Vinaver, c'est la façon dont il réconciliait ce qui au départ était posé comme deux inconciliables d'un rapport au monde de l'écriture, c'est-à-dire un rapport direct, un rapport d'enregistrement des faits qui serait celui de l'historien ou du chroniqueur, et bon, ça c'est Aristote dans la Poétique qui pose cette différenciation donc entre le chroniqueur et l'historien qui dit les choses telles qu'elles sont ou qu'elles ont été, et puis le geste du poète qui lui justement apporte un regard et un décalage par rapport au monde et qui donc montre les choses, c'est la fameuse définition de la vraisemblance, hein, telle qu'elle devrait être, semble être, etc. Or, il me semblait que chez Michel Vinaver et dès les Coréens, il y avait croisement de ces deux gestes, justement, c'est-à-dire à la fois le geste du chroniqueur et le geste du poète par rapport, justement, et qui apporterait par rapport à la chronique, notamment par la technique du montage dont Michel Corvin parlait tout à l'heure, une mise en jeu poétique du réel. Et ce qui fait que finalement, ce qui semblait se dégager du sein même de la chronique, du sein même de l'histoire, du sein même de cette espèce de trame, comme ça, de galerie, on pourrait dire, des faits, c'est encore une autre notion et qui pour moi est au cœur de 11 septembre 2001, justement, c'est la notion de témoignage. C'est-à-dire que le chroniqueur fait parler le réel, fait parler les gens, et finalement, donc, ramène les témoins sur scène. Et alors, toutes les voix, effectivement, de 2001 sont les voix de ces témoins nommés anonymes. Qui pour nous disent le monde.
Une chose encore sur les Coréens, je ne sais pas quand tu l'as écrit cette pièce.
En 55.
Parce que moi je l'ai vu en 56, j'étais militaire pendant la guerre d'Algérie. Et je l'ai reçu comme un texte sur la guerre d'Algérie, pas du tout sur la Corée. Autrement dit, il y a des retombées objectives de la lecture d'une pièce qui échappent, je ne sais pas si tu le pensais au moment où tu l'as écrit, mais qui échappent à l'auteur.
Ah ben oui, heureusement.
Et oui, mais c'est ça l'intérêt d'une pièce, comme tu dis, qui est publique. Qui est oblique. Parce que si elle est de face ou vraiment de dos, elle dit ce qu'elle a à dire et puis c'est fini. Un auteur dramatique de ma gauche, Roland,
En écoutant Michel, qu'est-ce qu'on l'oblique, peut-être, donc c'est une direction du regard aussi, face au monde aussi, je me suis posé la question, c'est tellement gros, face au monde. Oui, oui, face au monde, qu'est-ce que ça veut dire? Et je me suis demandé où je regardais, quoi, qu'est-ce que je regarde et où je regarde. Mais revenu cette... Dans la biographie de Beckett, là, de Knowlson, il y a une chose qui m'avait beaucoup frappé, c'est que, vous m'entendez? Oui, oui. C'est que Beckett, de 36 à 38, fait un voyage en Allemagne et il va voir des tableaux dans les musées. Pendant 2 ans, on est en pleine montée du nazisme, il est immergé dans le pays qu'est l'Allemagne, et en fait il décrit pendant 2 ans des tableaux qu'il va voir de façon méthodique, de musée en musée, et entre autres, il regarde le tableau de Friedrich qui va, semble-t-il, lui inspirer les personnages d'En attendant Godot. Et ça m'a pas mal troublé, je me suis dit, est-ce que, par quel biais indirect, il se met face au monde et pas. Donc, pour moi, c'est la question que je me suis posée par rapport à ma pièce animale et par rapport à l'Afrique. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis allé écouter ou voir en Afrique? Et en fait, j'avais déjà écrit une version de la pièce, sinon je crois que je n'y serais pas allé, qui ne se passait pas du tout en Afrique d'ailleurs, qui se passait en Bretagne. Et en fait, je suis surtout allé entendre quelque chose. C'était surtout une certaine façon de manier la langue, c'est surtout un rythme, c'est surtout des structures de langue que j'ai finalement captées. C'est plus que des paysages, par exemple, même s'il y en a eu aussi. Mais au bout du compte, c'est davantage ça qui finalement m'intéressait. Je ne savais pas avant d'y aller, mais je pouvais le savoir parce que j'avais déjà commencé à écrire la pièce d'une certaine façon. Et finalement, ce qui m'arrive d'une certaine façon, du monde, j'ai l'impression que je ne le décide pas avant. Simplement, je sens que bon, je vais à tel endroit regarder quelque chose ou écouter quelque chose. Et là, c'était à l'évidence au Niger, au Burkina et au Bénin et au Cameroun. J'ai voyagé pas mal et c'était vraiment le bruit, enfin, la façon dont se construit, se déconstruit, se reconstruit une langue française qui n'est pas pratiquée de la même façon que en France. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à cette histoire d'être face au monde. C'est du coup une question d'oreille, là pour le coup, autant que de...
Et de regard. Et de... Aussi. Jean-Pierre, que penses-tu de tout ça?
Je crois qu'on est, en posant la question de l'oblique, Michel a tout à fait raison, on est dans une période où beaucoup d'auteurs se recommandent de cette oblique-là, alors que le public s'attend encore assez souvent à du face-à-face. Il semble qu'il y a une espèce de distorsion là. Je suis très frappé par le nombre de gens qui continuent par exemple à me parler de messages, ou à réclamer un message, ou à envisager les choses en termes de communication, mais je vous le fais remarquer, non pas à double sens, comme l'indique le mot communication, mais toujours dans un seul sens, c'est-à-dire on impose. C'est ici que ça communique, et vous taisez-vous. Donc là moi j'ai retravaillé cette année sur une notion qui a pratiquement, enfin que plus personne n'emploie, elle n'a pas disparu, en dramaturgie, parce que c'est un mot qui fait mauvais genre, c'est la notion de point de vue, justement. Comme si les auteurs, ces dernières années, s'étaient relativement absentés de leur œuvre, ou en tout cas s'étaient fait discrets. Je crois que c'est ce qui me frappe chez Michel Vinalère et chez d'autres auteurs ici présents, c'est qu'il y a une sorte de, parfois, de fausse absence, et que leur point de vue est extrêmement marqué par des moyens discrets. Effectivement, chez Vinavert, c'est clair par le montage, mais également, enfin c'est lui qui en a parlé le premier, donc je ne ferai que le répéter, par l'ironie. Michel est perpétuellement sur le mode de l'ironie. Donc, il se trouve que quand on lit le 11 septembre 2001, quand je le lis, il m'est arrivé de rire. Alors que, a priori, c'est un sujet dont on ne devrait pas. C'est encore une forme d'oblique. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans le deuil, la célébration des morts, la complainte, il est dans une espèce il porte où il écoute ce monde d'une manière tellement acérée qu'il nous fait entendre aussi une sorte d'ironie tragique. quand telle jeune femme qui devait se rendre à son travail dans la tour ne s'y est pas rendue, son mari lui a dit « Oh, tu ne devrais pas aller travailler, tu as une mine de déterré. » Il ne croyait pas si bien dire. C'est le genre de réplique, manifestement, que Linaver affectionne. Et donc, il crée un point de vue au moment même où il semblerait qu'il n'y en ait pas. On peut dire que 2001 est une sorte de vision uniquement due au montage, neutre. Et en même temps, et notre ambassadeur à Washington ne s'y est pas trompé, est-ce si neutre que ça, si on entend bien la dimension ironique. Alors moi, je suis assez intéressé par ce retour de la question du point de vue, évidemment, à ne pas mélanger avec une notion de qui serait de didactique. Il ne s'agit pas de revenir au didactisme, il s'agit de dire quand même la pièce de théâtre. Enfin, moi, les seuls auteurs qui m'intéressent sont ceux qui posent un regard sur le monde tellement fort que, évidemment, ils m'engagent à réfléchir sur ce monde. Sinon, je ne vois pas pourquoi je le lirais et pourquoi ils m'intéresseraient. Enfin, si c'est pour me dire des choses que je sais depuis longtemps. Juste une anecdote, si tu veux. Quand j'étais lecteur au CNL, on voyait beaucoup d'auteurs qui nous disaient « Ah, vous m'avez refusé une bourse parce que mon écriture est trop intime ou elle n'intéresse pas assez le monde entier. » Alors, je suis allé en Bosnie. C'était très courant à l'époque d'aller en Bosnie, de préférence pendant la guerre. Et ils revenaient et ils écrivaient une pièce de guerre. Et ces pièces n'avaient absolument aucun intérêt parce que leur présence en Bosnie n'avait rien changé au sujet. C'est-à-dire qu'ils avaient écrit une pièce de guerre d'une extrême banalité, sans point de vue, sans présence de poète, avec des lieux communs du type 5h du matin, je tape à la porte, les soldats arrivent, enfin, des choses qu'on a lues ou vues mille fois, mais qui ne disaient rien ni de la guerre en Bosnie, ni de la guerre en général. Donc ça, moi je crois qu'il faut un poète, et que c'est ce poète-là qui apporte un point de vue. Moins le point de vue est lourd, plus je suis intéressé.
Oui, ça me faisait penser à l'instant à une pièce qui est exacte, l'antidote du 11 septembre, j'ai dû la lire, c'est 13 mai 68 de Luc de Goustine, qui se contente de coller, mais alors, c'est pas du montage, c'est du collage des proclamations de l'époque, parce qu'aucun montage n'est innocent, il faut bien connaître, et donc il est éminemment dirigé, mais l'oblique justement, monsieur Daniel.
Bah, avant de répondre à parlant un peu hein, dernier ressort, comme on dit, avant d'y répondre à cet oblique, je me suis justement posé une question assez oblique, c'est de quel monde il s'agit. Et quand on dit le monde d'eau tournée, enfin, le théâtre d'eau tournée ou face au monde, je ne peux pas ne pas me rappeler mes anciennes études philosophiques et dire que le monde ne s'arrête pas à la politique, ni à la société. Donc la question peut être aussi de comment on introduit le monde, c'est-à-dire la vie, les étoiles, le soleil et la mer, cette marâtre hein, qui en fait pas mal de dégâts, tsunami par exemple, et de ne pas simplement s'arrêter à la seule question de la relation ou de la chronique des événements. Et c'est peut-être la difficulté. La poésie, d'une certaine manière, parce qu'il y a des poètes dramatiques, la poésie consiste justement à nouer et à mêler des éléments qui sont de l'ordre de la chronique ou de l'événementiel avec des choses qui sont de l'ordre de la logique, de la sensation ou de la sensibilité. Et c'est pourquoi j'avais essayé, alors je ne vais pas tout décliner, mon petit détour de notes griffonnées, peut-être j'en ferai un article, mais j'en suis arrivé à l'idée que finalement cette question m'amenait à dire qu'il s'agit d'une question d'anatomie de l'homme, et j'ai regardé, si vous voulez, ces grandes leçons d'anatomie sur lesquelles ont travaillé pas mal de peintres hein, et qui nous permettent de nous connaître nous-mêmes. Connotis auton, connais-toi toi-même. Et en même temps, se connaître soi-même, c'est en même temps se découper, se disséquer, donc d'une certaine manière se faire très mal, tout en tenant compte, évidemment, compte tenu du macrocosme. C'est-à-dire de ce fameux théâtre du monde, mais qui pour moi n'est pas exclusivement politique, événementiel, etc., etc. Et pour entrer maintenant dans ce que vous venez d'entendre, moi je me suis dit qu'au fond, que l'on aborde maintenant le théâtre de front ou d'oblique, c'est le même combat. Alors je suis obligé de prendre un exemple qui me concerne, J'ai fait deux pièces justement sur la guerre d'Algérie. À travers la guerre d'Algérie, où évidemment je ne suis jamais allé. Djebel et la gangrène. La gangrène fait partie, c'est une pièce sur le petit théâtre du monde vu d'en France à travers l'Algérie. Djebel, c'est une pièce sur le grand théâtre du monde vu à travers l'Algérie. Donc la pièce est une d'en France, petit théâtre du monde, l'autre me semble être une pièce vraiment vue d'Algérie, grand théâtre du monde. Et quand je dis même combat, c'est que toutes les deux ont eu des problèmes. Quand la gangrène a été créée en 1977 au Festival d'Avignon, la Légion étrangère était présente quelquefois. Elle était difficile à monter. En 1999, à Vauvert, on m'avait fait l'honneur d'un parcours d'auteur. J'avais 12 pièces qui étaient lues ou jouées et bien plus. À Vauvert, il y avait une salle de 300 personnes. La moitié s'est levée au titre de la pièce en disant « on ne lit pas ça ici ». Et là, c'était le petit théâtre du monde vu d'en France. Pour ce qui concerne notre pièce Djebel, qui a eu énormément aussi de difficultés à être jouée, je vous donne une anecdote, il y a eu l'année de l'Algérie en France. Comme cette pièce était déjà passée au comité de lecture de France Culture et avait été validée, mais ça faisait un peu peur à l'époque, donc en 1985, comme vous autres, ça n'avait jamais été fait. Et j'ai écrit à France Culture, avec copie conforme à Lucien Hatoum, qui était le pape, d'une certaine manière, des productions dramatiques contemporaines à Radio France, j'attends toujours la réponse. Seconde anecdote, cette pièce donc a été refusée, non pas parce qu'elle n'intéressait pas, mais parce que d'une certaine manière elle était dangereuse, a mis du temps à se produire. Et alors le plus bel exemple que je puisse vous donner, c'est un jour, l'actuel directeur du Théâtre National de la Colline, Alain Françon, en 1986, vient me demander l'autorisation de créer cette pièce. Alors il dit, mais pourquoi tu veux créer cette pièce? Il dit, parce que je ne sais pas faire ce type de théâtre. Ce qui est déjà pour moi une très bonne raison. Alors je dis, où vas-tu le faire? À la Comédie de Genève, dirigée par Benoît Besson. Tu as les moyens? Pas de problème. On ne va pas t'embêter? Non. Les mois passent, pas de création. Pas de lettres, pas de téléphone. Et à un moment donné, j'ai dû écrire assez... de manière acerbe, c'est-à-dire en disant, que se passe-t-il? Alain Françon ne m'a jamais répondu. C'est la co-directrice qui s'appelle Anne Peterlaz, qui finalement a fait effort de me dire que Benoît Besson, la Comédie de Genève et surtout les ambassades, ça n'en voulait pas, ça ne crée pas de problème. Voilà, vous voyez donc que qu'on prenne les choses du tout petit théâtre du monde, c'est-à-dire en hobby, comme vient d'en parler Michel Vinabert, ou bien qu'on les prenne de front, si ce théâtre dérange, eh bien, il est soumis, si vous voulez, à une certaine forme de censure larvée, au fond, enfin, ou publique, parce qu'il n'y a rien de plus violent, quand même, qu'un public. Ça, c'est le théâtre qui démontre, quand même, que vous avez une moitié de salle qui se lève au titre, ça fait encore du bruit. Voilà.
Public organisé. Mais je trouve que c'est très agréable, justement, d'être interdit, parce que ça prouve que...
Non, je m'en plains pas.
Que le théâtre a encore une certaine efficacité. Alors, longtemps, évidemment, la censure sévit directement. Alors là, il n'y avait aucune espèce de scrupule. C'est un censeur. Je pense, par exemple, à la pièce qu'ils appellent la partie de chasse d'Henri IV. À la fin du XVIIIe siècle, ça paraît pas bien méchant de parler d'une partie de chasse d'Henri IV, mais c'était lu par le censeur comme étant finalement un coup de pied dans les tibias de Louis XV, par opposition. Donc la pièce n'a pu être jouée et fêtée qu'après le moment de la Révolution. Je crois qu'il y a eu des ennuis avec les Coréens aussi.
Oui, en fait, quand les Coréens ont été créés à Lyon par Roger Blanchon dans son petit théâtre, qui s'appelait le Théâtre de la Comédie, c'était un théâtre qui avait 95 sièges. Il y a eu des militaires en civil ou des gendarmes, enfin bon, c'était la force armée qui venait protester contre le fait que dans ce tout petit théâtre, il y avait cette pièce qui mettait en scène des soldats du corps expéditionnaire des Nations Unies. Mais plus de façon plus sournoise et plus diffuse, ce qui s'est passé, c'est que Ma pièce suivante, Les huissiers, qui avait été en fait commandée par Planchon pour faire suite au Coréen, Planchon n'a pas jugé possible de la monter. Et ma pièce suivante, la troisième, Iphigénie Hôtel, qui était également acceptée par Planchon, qui à ce moment-là était sur le point de prendre le théâtre de Villeurbanne, le futur TNP. Et là, ça a été annoncé, ça a été programmé, mais ça n'a jamais eu lieu, parce que si ça avait été monté à ce moment-là, Villeurbanne aurait sauté, ou en tout cas Planchon pensait que ça risquait de sauter. Alors, ça m'amène peut-être à... Ce qui fait qu'en définitive, entre la création des Coréens qu'évoque Michel Corvin et ma première réapparition, disons, dans le domaine, sur scène, il s'est écoulé 18 ans, je crois. 56, oui, à la demande d'emploi en 72, ça fait à peu près ça? Oui. En tout cas, pour revenir alors au 11 septembre 2001, c'est encore une variante de ce que Daniel Lemayeux décrit comme, disons, le phénomène de la censure. Là, c'est l'institution française, c'est le pouvoir, le gouvernement français qui a pris un acte de censure, non pas sur la demande des Américains, mais à partir de ce que les Français craignaient pouvoir être la réaction des Américains aux États-Unis. Et là, donc, on a affaire à un fantasme. Je dis un fantasme parce que la suite a prouvé que les Américains n'avaient strictement aucune espèce de réticence sur le plan politique à cette pièce, que ce soit le texte ou la réalisation qu'en a faite Cantarella. Absolument pas, ni dans la presse, ni dans le public. Mais les Français ont fait montre d'une remarquable frilosité. On peut dire même que le syndrome qui s'est manifesté à ce moment-là peut faire penser à celui des autorités de Vichy qui allaient au-devant de ce qu'une puissance, en l'occurrence occupante, pouvait peut-être leur demander.
Mais ce qui est intéressant, c'est de constater que la censure, quand elle est officielle et codifiée, vous savez qu'elle a été supprimée en 1906, elle rassure, un certain sens, on sait où on va. Et par exemple, la pièce de Gatti sur le général Franco a été censurée. Là, la censure n'existait plus, sauf qu'il y avait quand même quelque chose qui était qu'on ne pouvait pas diffamer un chef d'État étranger dans l'exercice des fonctions. Donc ça, c'est dans les tables de la loi, dans cette mesure, quelque chose de clair. Mais je voudrais donner la parole à ceux qui voudraient l'apprendre sur un sujet de cette nature ou autre.
Ben, je peux faire part là encore d'une expérience pour répondre, enfin pour rebondir, comme on dit, sur ce qu'a dit et Michel maintenant et tout à l'heure Jean-Pierre Ringard, qui est de comment parler de ces problèmes épineux, de ces questions épineuses. Alors, tu parlais de Bosnie, Jean-Pierre, là, mais il se trouve que moi je suis parti au Kosovo, dans une espèce de désastre comme ça, et non pas pour écrire une pièce de théâtre, mais qui est devenue quand même une pièce de théâtre, mais pour réaliser un atelier d'écriture avec ce qui restait d'écrivains kosovars, albanais, serbes, enfin, etc., etc., de façon à pouvoir croiser les points de vue, donc les écrivains, plus d'autres étudiants qui suivaient la chose, croiser des points de vue extérieurs, le mien par exemple, je connaissais l'affaire par les journaux, hein, et pas tout, parce qu'évidemment, et le point de vue de ceux qui étaient. Et le point de vue intime alors, de ceux qui étaient, était d'un point de vue éminemment politique et violent, avec des détours extraordinaires. On a titré ça « Voyage en Unmikistan », c'est traduit en kosovar, et on a croisé, ben, tricoté, si vous voulez, des points de vue, donc il y a mon point de vue, évidemment, qui est peut-être plutôt de l'ironie, et il y a le point de vue des hommes et des femmes qui ont écrit ça, qui ont vécu cette catastrophe. On voit tous les 100 mètres, quelquefois, il y a des plaques, les dates de naissance, donc il y a des gens, ils sont nés il y a 3 jours, il y en a qui étaient nés depuis 90 ans, ils ont tous été fusillés. Quand je dis fusillés, c'est encore pire. Donc de ce point de vue-là, il me semble que dès le moment où les choses deviennent véritablement douloureuses, c'est peut-être le croisement des points de vue qui permet de cerner un peu cette difficulté de raconter ces mondes. Puisque chacun y vient avec son encyclopédie personnelle, sa sensibilité personnelle, et c'est vrai qu'un Kosovar ou un Rom ne parlera pas du tout de ce problème-là, parce qu'il y en a qui étaient à la source, et il y en a qui en ont établi la chronique. Donc, je pense que c'est... Et, juste Michel, une petite chose peut-être, et j'ai l'impression quelquefois, parce que quand on se parle comme ça, on a des... J'ai l'impression quelquefois, quand tu fais par exemple le 11 septembre, j'y avais pas pensé hein, jusqu'à maintenant, que finalement tu fais un croisement comme ça aussi de point de vue, mais à travers toi. Puisque tu vas chercher dans les journaux enfin, les éléments, tu l'as fait pour les huissiers et pour d'autres pièces, hein, puisqu'on se connaît, puis on connaît nos écritures. Et je me disais là maintenant que peut-être aller à des sources différentes ou à des voix différentes, justement, la voix de Ben Laden ou Ben Laden, si comme vous voulez, la voix de Bush, qui du coup, dès le moment où c'est écrit, n'est plus audible, pour certains. Et la voix aussi enfin, de ceux qui avaient été pris dans la tourmente de cette catastrophe. Donc c'est une hypothèse que je formule.
Mais là, on se trouve devant quelque chose qui est un peu difficile à définir, et à quoi Catherine Nogrette a fait allusion, qui est, quel est le rapport entre ce travail-là et la poésie ? Parce qu'on peut se demander qu'est-ce que c'est la poésie, comment est-ce qu'elle s'insinue ou comment elle intervient dans un travail qui consiste à regarder, à représenter le réel. Je sais que 11 septembre 2001 n'aurait strictement aucune efficacité et aucun intérêt si c'était un simple montage de documents. Ce ne serait pas, rien ne passerait. Alors qu'est-ce qui fait que apparemment quelque chose passe, puisqu'on a vu... On a vu avec le public de Los Angeles, quelque chose passe qui n'est pas la simple émotion de la remémoration de l'événement, mais qui apporte un souffle d'intelligence et peut-être de gaieté dans le rapport avec l'événement. Je dis bien de gaieté, oui. On arrive au paradoxe du théâtre, c'est que le théâtre, ça permet... quelques gaietés à l'abordage des choses les plus graves et les plus douloureuses. Et tout cela m'amène à, en fait, me ramène peut-être à ce qui me semble. Nous avons pris un détour par rapport à ça, c'est qu'est-ce qui se passe dans une salle de théâtre quand une représentation a lieu. Peut-être que là, on peut distinguer. Entre la communication, comme dit Jean-Pierre, une communication d'un ou plusieurs points de vue, et puis, alors quand il y a cette communication, le spectateur peut avoir la satisfaction de recevoir quelque chose qu'il attend, ou au contraire se dire, ben, je ne suis pas venu pour ça. Et puis l'autre situation du spectateur, ça vaut pour ceux de lecteur aussi, c'est celle où il y a la demande ou l'invitation à un petit travail. Et je crois que c'est ça la grande différence entre deux types d'événements théâtraux, là où le spectateur est assis dans son siège à recevoir, et puis là où on lui demande, on l'invite à un petit travail, et alors là il y a une délectation du public, je l'ai senti hier soir, très fortement, hein, hier midi, puisque c'était une représentation à midi de l'heure inverse, j'ai senti le plaisir d'un petit travail dans le public, qui n'était pas un travail ardu, qui n'était pas un travail, je dirais, tel que par exemple, le public se trouve soudain face à face à ce type de travail, quand on lui demande de bien vouloir se remémorer des éléments qu'on lui expose pour qu'il comprenne la pièce qui va se dérouler. Non, c'était pas ça. Le petit travail, ça consiste à être attentif à des connexions qui se font entre tel élément du réel, tel élément du dialogue et tel autre. Et là, ce sont ces connexions et ces déclics qui font que, j'ai travaillé, j'ai fait un petit travail et je vois les choses autrement.
C'est intéressant parce que ça pose le problème de savoir jusqu'où on peut être oblique et jusqu'où on peut exiger un travail au spectateur. Et à l'inverse, il y a des écrivains qui veulent être obliques et qui sont simplifiés dans la réception. Je pense évidemment à Genet, dont les paravents ont été compris comme une pièce exclusivement dirigée contre la guerre d'Algérie, ou une pièce que je considère comme très politique, qui est Le Balcon, qui donne l'impression d'être tellement oblique qu'on n'y comprend plus rien. Donc là, on est dans ce point délicat de ce travail de l'intelligence, qui est un plaisir, bien sûr, mais où les frontières sont assez, on peut dire, perméables, et d'un côté, ça marche, et d'un côté, ça ne marche pas. Qu'en pensez-vous ?
Ça marche et ça marche pas, ça dépend des représentations.
Mais ça dépend bien des œuvres aussi.
Ça dépend des œuvres et des représentations. Puisqu'on parle de pièces de théâtre, on parle aussi donc de pièces de théâtre qui sont mises en scène. Donc de représentations. Et ces représentations elles-mêmes sont face ou obliques ou déplacent ou pas. Les œuvres ne sont pas écrites simplement dans la temporalité de l'événement qu'elles traitent. Elles sont écrites et elles seront sans doute représentées, présentées au public à d'autres moments. Qu'est-ce que le 11 septembre ? Le 11 septembre, c'est encore proche de l'événement. Alors, comment la pièce sera représentée, entendue dans 10 ans ou dans 20 ans, c'est aussi très intéressant. Donc moi, je trouve que ce que vient de dire Michel Vinaver, c'est le centre de la question, c'est-à-dire la force poétique, la force qui justement condense les mondes dont on parle, que ce soit des petits mondes ou des grands mondes, comme tu dis Daniel, comment est-ce qu'ils sont condensés, comment est-ce qu'ils sont portés par une matière écrite, par une langue, par une structure, par une forme dramatique. Et on voit bien que, en l'occurrence, la forme dramatique n'est pas neutre, elle est décisive dans ce qu'on entend du monde. Donc dans notre affaire à nous ici, on entend autant dans la façon dont c'est fait que dans ce qui est dit. Et je crois que c'est notre boulot de faire entendre quelque chose dans la façon dont c'est écrit, dans sa structure, et probablement aussi d'admettre, même si je suis assez sensible aussi à cette question de point de vue, et le fait que tu la ramènes, que tu la remettes sur la table, Jean-Pierre, c'est juste de se reposer cette question tout le temps. Il y a quand même une partie de ce qu'on écrit qui échappe par nature, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il va être réinscrit dans de la réalité par la mise en scène, par les acteurs. Et qui, du coup, va prendre aussi, va déplacer le sens. Va en tout cas orienter le regard à un autre endroit. Moi, ce qui me frappe aussi dans ce qu'il y a dit, c'est à quel point, alors là, c'est tout à fait agréable d'ailleurs d'entendre ça, à quel point des fictions, des pièces de théâtre peuvent mobiliser des réactions. C'est encore passé pour le 11 septembre, alors que, a priori, ce sera un petit nombre de spectateurs. Enfin, en tout cas, ce ne sont pas des foules qui sont concernées par la représentation. Donc, qu'est-ce qu'il y a de si puissant dans la représentation d'une pièce de théâtre, d'une œuvre de fiction, qui est à ce point menaçant pour des autorités, puisque ça a lieu de façon récurrente, c'est quelque chose qui continue à faire de l'effet. Et il ne s'agit pas simplement du sujet, il s'agit d'autre chose que du sujet. Il s'agit du sujet, de son traitement et de la puissance de dérangement qu'il y a dans son traitement.
Ça veut dire que c'est le lecteur qui écrit la pièce, tout simplement.
entre la notion de dialogue et peut-être, puisqu'on parle politique, la notion de la dimension politique de la pièce, la notion de dialogue qui vient d'être avancée aussi, c'est-à-dire ça se passe dans un rapport de dialogue avec des spectateurs, qui apportent, qui font ce petit travail dont parle Michel, peut-être quelquefois un grand travail, mais qu'est-ce qui se passe dans ce dialogue entre ceux qui assistent à la représentation, mais qui en même temps y participent en y assistant, et puis ceux qui la jouent, ou ceux qui ont écrit la pièce. Je pense que là, il y a un enjeu qui a son poids pour les auteurs dramatiques, je pense, aujourd'hui. Il ne s'agit pas simplement de décliner tous les aspects d'un point de vue, mais d'autres choses aussi, de faire travailler ce point de vue dans le présent de la représentation.
Oui, moi je voulais juste rajouter quelque chose par rapport ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à la dimension temporelle de ce rapport au monde, parce que donc c'est vrai qu'il y a un rapport d'actualité quand on parle du monde au présent. Il y a un rapport d'actualité donc qui se décline assez immédiatement par rapport à l'événement. Donc vous parliez des auteurs qui se rendent dans le pays en guerre et qui écrivent directement sur l'événement. Bon, donc il y a un effet immédiat, et il y a un rapport immédiat et qui joue encore évidemment, puisqu'on est sur les retombées, enfin les suites politiques du 11 septembre 2001. Mais en même temps, il y a un rapport qui, bien sûr, un rapport au monde qui dépasse cette immédiateté et qui inscrit la pièce dans un rapport beaucoup plus large, je dirais, à l'histoire et à l'humain, au politique et à l'humain. Et alors, la création, Michel, du 11 septembre 2001 à Barcelone, moi, je le trouve particulièrement intéressante, puisque 11 septembre 2001 a été mis en rapport avec les Troyennes, et c'est à cette occasion-là que vous avez réécrit justement les Troyennes, et notamment retravaillé les chœurs des Troyennes. Cette mise en rapport des deux pièces, je trouve, est particulièrement intéressante.
En repensant à l'accueil qui a été fait aussi bien à Barcelone qu'à Los Angeles en septembre 2001, ce qui semble avoir été au plus fort de l'émotion du public, ça a été l'indigestion dont fait état la jeune femme, tout à fait à la fin de la pièce, indigestion de son fils qui fait qu'elle n'a pas été au bureau, et donc qu'elle a survécu. Et puis d'autre part, un autre instant qui marque profondément le public, c'est celui où un laveur de carreaux, dans l'une des deux tours, il y a une journaliste dans la pièce qui dit ben voilà, il s'est passé une chose qui était que ce laveur de carreaux se trouvait avec un certain nombre d'autres gens dans un ascenseur. L'ascenseur s'est trouvé bloqué après le choc de l'avion, etc. Et c'est grâce à son racloir qu'il a pu ouvrir une lucarne dans ce. Là où l'ascenseur était bloqué, et c'est par cette lucarne, donc cette petite cargaison d'hommes a pu trouver la voie du salut quelques minutes avant que la tour implose. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que quand j'ai fait l'adaptation des Troyennes sur la demande des dirigeants du cadre national de Catalogne, c'est eux qui ont créé en fait en septembre 2001 dans une traduction en catalan avant la création française ou américaine. Disons que la façon dont j'ai abordé les Troyennes, ça a été de prendre en gros la pièce de Ripid telle qu'elle était écrite et de substituer de façon assez radicale les chœurs de la tragédie antique. Ou plutôt de substituer au cœur de la tragédie antique des chœurs que j'ai écrits de toutes pièces, qui sont faits un peu du même matériau que celui de l'indigestion du petit garçon, d'une part, et puis de l'histoire de l'ascenseur et du racloir du laveur de carreaux. Autrement dit, ça revient peut-être à la première remarque que j'ai faite au cours de notre réunion ici, c'est de partir du petit. Que c'est pas à partir du rayonnement du petit que le grand peut prendre toute sa dimension.
Jean-Pierre.
Je crois que c'est d'ailleurs très important que le public s'y retrouve par ce biais-là. On a tous trop tendance à vouloir penser grand. C'est-à-dire, je pense que parfois il y a une réception de Linavert et de quelques autres ici qui mise trop sur les grands sujets. Je pense qu'on oublie parfois quand on lit des titres. C'est comme si je disais à la renverse de Linavert, traite du cancer. La demande d'emploi est une méditation sur le triste chômage des cadres, et ainsi de suite. Linavert écrit ça et n'écrit pas ça. Il a toujours une entrée particulière qui fait que, comme public, ça peut me déclencher. Sinon, je veux dire, j'ai pas besoin de lui. pour méditer sur le chômage. Enfin, pas forcément.
J'aurais une question un peu provocatrice. Est-ce que la forme dramatique n'est pas gênante pour dire le monde ? Parce que tu parlais tout à l'heure, Daniel, de dire le monde au sens philosophique du terme, et il n'y en a pas tellement qui s'y frottent, un certain Claudel par exemple, mais depuis on n'ose plus tellement. Mais est-ce que la forme dramatique, avec son poids et son passé, n'est pas encore grande ? Je pense à quelqu'un qui a écrit des textes qui ne sont pas du tout des pièces de théâtre, c'est Jean Hatzfeld, qui a écrit sur justement les massacres normands, et ces romans ont été adaptés et font foncièrement un véritable tabac. Et donc ils sont théâtralisés et ils gardent, disons, leur patte proprement romanesque de témoin qui va dans les détails, qui essaye de glisser en dehors de toute forme, disons, prédéterminée. Qu'est-ce que tu en penserais ?
Oh, mais c'est pas provocant.
Non, mais enfin, vous êtes surtout dans le théâtre.
Non, mais je pense à quelqu'un qui s'est posé la question, qui est metteur en scène, avec lequel je travaillais, et Michel a eu aussi une pièce créée par lui, c'est Antoine Vitesse, et c'est sa fameuse intuition de faire théâtre de tout. Donc, qu'est-ce que faire théâtre de tout ? Alors, comme j'amène toujours des petits éléments, je vous avais fait un petit article sur faire théâtre de tout, intuition d'Antoine Vitesse, donc la question que me posait Jacques Miché, qui est un autre metteur en scène, non mais peut-on vraiment faire théâtre de tout et par exemple de l'annuaire téléphonique? Donc j'étais obligé de dire oui et autrefois j'ai dit non, aujourd'hui je dis oui. On pourrait faire une espèce de spectacle répétitif, si vous voulez, puisque tous les gens sont au portable, ou avec SMS, etc. Mais ce que racontait Vitesse, c'est qu'on peut faire théâtre donc d'un article de journal, et par exemple d'un article du journal Le Monde, ça tombe bien, puisque la question c'est Le Monde, c'est entretien de M. Saïd Hamadi, ouvrier algérien, entretien donc journalistique, fait par un écrivain, Tahar Ben Zeloun, et que Vitesse a monté tel quel. Puis il s'est mis à faire, par exemple, comment faire pour jouer ce monde, comment jouer ce tout, et donc pas seulement les personnages, mais aussi des rues, des maisons, la campagne, et les automobiles, la cathédrale de Bâle, la vie, comment jouer l'univers tout entier, et Moby Dick de Melville, et les miracles d'après l'évangile selon saint Jean, et des éléments aussi intraitables que la mer, que la profondeur de la mer. Et ensuite, par exemple, Vitesse avait proposé à un metteur en scène belge, dont le nom m'échappe, mais de monter le grand roman flamand, enfin, de Hugo Claus, que je recommande si vous voulez vous amuser, qui s'appelle Le chagrin des Belges. Selon la manière que Vitesse avait eue de faire les cloches Catherine, d'après les cloches de Bâle d'Aragon, qui sont des romans immenses, et ce metteur en scène belge, donc c'était de chez lui quand même, a été effrayé de la manière de traiter, c'est-à-dire de faire un traitement de cela, parce que, évidemment, c'est un roman qui fait à peu près 600 pages, bien posé, et en même temps, faire ce détour par autre chose que des textes dramatiques est aussi aujourd'hui, finalement, un enjeu possible du théâtre.
Dernière question provocatrice, peut-être un peu plus. Est-ce que vous acceptez, messieurs, de disparaître, c'est-à-dire de ne plus être joué ni lu, comme le prévoyait Genet, écrivant Les Nègres, et disant, d'une façon, évidemment, dans une préface qui a été éditée très récemment, il disait « Que deviendra cette pièce quand auront disparu d'une part le mépris et le dégoût, d'autre part la rage impuissante, et la haine qui forment le fond des rapports entre les gens de couleur et les blancs. Bref, quand entre les uns et les autres se tendront des liens d'hommes, elle sera oubliée. J'accepte qu'elle n'ait de sens qu'aujourd'hui. » Ça pose le problème, évidemment, de toutes les pièces qui reposent sur une actualité. Et en même temps, la réponse est déjà donnée par cette ouverture, par ce travail du spectateur qui voit à travers autre chose que ce qui est immédiatement donné.
Et on constate que les piques, si elles ont quelques vertus, se patinent. Avec le temps, elles changent et elles prennent des couleurs différentes, des sens différents. Ça, c'est, on peut dire, un peu le... une façon de ne pas disparaître, c'est de faire en sorte... Mais on n'a rien à faire pour que ça arrive. Ça arrive ou ça n'arrive pas, mais on constate, dans le meilleur des cas, que les pièces ne... disons qu'elles suivent l'actualité. Et que, je sais pas, tu mentionnais les Coréens. Les Coréens, les huissiers qui ont été montés il n'y a pas très longtemps... À la renverse qui se joue ici à ce festival et qui date d'il y a 26 ans, et des jeunes qui sortent de la salle en disant bah, oui, j'étais peut-être pas né quand ce que ça raconte se produisait, mais en fait ça n'a pas cessé de se produire. Donc il y a une façon de ne pas disparaître qui est liée au théâtre. Je crois que le théâtre a deux façons de ne pas disparaître. L'une, c'est l'actualisation qui se fait. Des œuvres, la réactualisation, et puis l'autre, c'est que le théâtre en tant qu'activité a beaucoup, beaucoup de mal à disparaître. Le théâtre renaît tout le temps de son décès annoncé. Tout le temps, il renaît dans la rue avec des gamins qui jouent entre eux avec un bout de ficelle ou un bout de ferraille, etc. Il n'arrive pas à vraiment disparaître, et je crois que là, il va sans doute survivre et au cinéma toutes les formes plus techniques, toutes les formes plus élaborées que la civilisation nous a apportées.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette disparition éventuelle du théâtre qui dit le petit monde? Je ne dis pas le grand monde, mais le petit monde.
Il faudrait regarder ce qui a disparu, quelles sont les pièces qui disparaissent, quelles sont celles qui ne disparaissent pas, et on verrait pourquoi. Et c'est certainement une question de poétique, de forme, de puissance, de culture. Effectivement, il y a des tas de pièces qui ne sont plus jouées en dehors du moment où elles ont été écrites pour répondre à un événement, à une actualité. Parce qu'elle n'avait que ce but-là, et que c'est un but insuffisant.
Peut-être pas. Regardez, la guerre de Troie n'aura pas lieu, c'est une pièce qui est complètement obsolète aujourd'hui, considérée comme obsolète, et qui avait un pouvoir d'actualité et de, on pourrait dire, d'annonciation, si on peut dire, au sens mauvais du terme, tout à fait précis. Oui, et elle est complètement oubliée. C'est pas pour une absence de poétique, c'est peut-être parce qu'il y en a trop.
Peut-être, il y a certainement aussi des...
Elle n'est pas oubliée, Michel. Oui. Elle plaît beaucoup dans le milieu scolaire.
Voilà,
mais les professionnels la montrent
peu. Oui, mais parce qu'elle est assez simple. Enfin,
vous n'avez pas oublié. Il y a déjà plusieurs personnes ici qui n'ont pas oublié. Bon, moi je peux parler d'exemple que la question de la forme et de la force sur laquelle on... Et évidemment, la question de passer par le tout petit pour parler des grands, c'est très important, tout simplement parce que ce sont aussi des mots, enfin, ce sont des choses toutes petites qui sont traitées très artisanales, mais je pense que c'est par rapport à l'action de la disparition du théâtre, c'est la disparition de certaines formes et l'invention d'autres. C'est ça qui est en jeu, c'est le renouvellement, ou ça renouvelle pas forcément, mais en tout cas, ça fait bouger les lignes. Et on ne peut pas écrire aujourd'hui sans faire bouger les lignes par rapport à ce qu'on reçoit.
Ce qui est très important, c'est l'édition. Par rapport à tous les problèmes ou tous les cas de disparition, si une pièce est éditée, et tant que la destruction n'atteint pas le livre sous sa forme papier et encre, parce que ça aussi...
Ça va vite, quand même, le pilonnage.
Le pilonnage, mais aussi tout simplement...
C'est l'archivage, oui.
Non, mais c'est le matériau papier qui est, au bout d'un certain nombre de décennies, sinon de siècles, oui, mais enfin disparaît, ou l'encre qui... Mais enfin, l'édition, c'est la garantie que même si vous disparaissez pendant 50 ans, 100 ans, 150 ans, vous avez des chances de réapparaître. Et c'est le cas pour pas mal d'œuvres du répertoire qui ont pu disparaître pendant deux siècles, trois siècles, et puis... Elles réapparaissent
encore. Oui, je pensais à un spectacle qu'on peut voir en ce moment et que beaucoup d'entre nous ont vu, c'est Brand. Mm. Bon, pas Ibsen de manière générale, mais par exemple Brand. Mm. Il se trouve que c'est une pièce qui pose la question de la morale, enfin, la question de l'éthique, et aussi la question d'un, d'un fou de Dieu. Tout à coup, c'est une question qui nous réintéresse, je ne sais pas si je vais ajouter malheureusement, alors que c'est une pièce qui a un peu plus d'un siècle. Moi, j'étais très surpris en écoutant la salle, par autour de la colline, il est rare qu'il y ait un public qui réagisse aussi fort, de manière aussi bruyante, à ce qui se passe devant lui, c'est-à-dire que j'ai entendu des cris d'horreur. Parce que le public voyait sous le... Non, non, il ne va pas dire ça, c'est pas possible, on n'a pas le droit. Il va obliger sa femme à, etc. Donc il y avait une espèce de réactualisation permanente du texte, probablement. Enfin, voilà.
On ne peut pas décider du retour.
On ne peut pas décider
des choses.
Si on m'avait dit cette pièce qui raconte l'histoire d'un protestant intransigeant quelque part là-bas, dans un fjord perdu, tu crois que ça va t'intéresser? J'aurais dit non.
Oui, mais c'est
un texte qui m'a passionné.
Ça prouve aussi pour nous que la question, c'est de bien faire la chose et non pas le but qu'on cherche à atteindre. C'est pas la cible. La cible. Elle, de toute façon, elle est amenée à se transformer, ça va se transformer, ce ne sera pas les mêmes gens, on ne peut pas savoir qui seront les gens qui seront là demain, etc. Donc, sur cette question-là, en plus, il y a forcément une certaine dimension de malentendu, dès qu'on parle donc de monde, de traité de sujet, de thème, etc. On entend une partie, on n'entend pas l'autre, et puis quelque chose qui n'est pas entendu aujourd'hui s'entendra peut-être demain, ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, sur ce point-là, on se retrouve devant la question de la force poétique. Pour moi, c'est vraiment... quel que soit le sujet, et à partir du moment où il y a une pièce qui est faite, il me semble qu'elle fasse du monde. Mais de toute façon, comment est-ce qu'elle pourrait...
On ne sait pas tout de suite, hein, forcément.
On ne sait pas tout de suite, mais...
Parce que Brand, c'est un sacré coup de barbe, il faut bien reconnaître, quand on lit. Donc, coup de chapeau au metteur en scène. Ouais.
Mais Daniel, il mettait le monde entier, il mettait le cosmos dans le monde, alors du coup, bah, évidemment...
Mais on y est,
bon. Daniel.
On envoie des têtes chercheuses, des lunettes un peu partout, donc le monde bouge sans cesse. Mais toutes ces réflexions me faisaient penser à encore Antoine Vitesse, hein, qui avait fait, le jour où Michel Villavert, ça répond en même temps à la question d'édition, avait fait son enquête là, sur faut-il qu'un auteur soit édité, enfin, j'avais demandé à beaucoup d'écrivains de savoir qu'est-ce qu'ils mettaient en tête, finalement, et j'avais répondu à l'époque que je préférais jouer qu'être édité. Mais Villavert, Michel, à force d'en parler un peu, m'a convaincu qu'il allait quand même laisser des traces. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que Antoine Vitesse faisait défense et illustration du répertoire. Et en disant, voilà, il prenait l'exemple suivant, en disant, les gens pensent que le théâtre de Shakespeare parle de l'époque de Shakespeare. Quelle erreur! Puisqu'il va chercher ses sujets 150 ans ou 200 ans avant lui. Au moment où il écrit ses pièces, alors Hamlet, ce que vous voulez, au moment où il écrit ses pièces, c'est les gens, c'est gorge protestants catholiques, enfin, etc., il n'en a jamais aucunement fait mention. Ce qui fait que le théâtre ne dit pas seulement l'actualité, le monde, la politique, il dit pour moi autre chose, il est à la fois, d'une certaine manière, un effacement et un dévoilement. L'effacement, c'est la référence elle-même des événements qui éventuellement nous ont touchés. Et le dévoilement, c'est que le théâtre permet de façon médiumnique, c'est-à-dire de façon d'un geste d'intercesseur, de façon médiumnique, permet de dévoiler autre chose, si vous voulez, que simplement la pauvre réalité. Et Vitesse était très sensible à cette chose, et ensuite, évidemment, je l'ai utilisé, lui l'utilisait à partir des textes du répertoire, mais on peut s'interroger aussi de cette façon à partir de l'écriture même du théâtre.
Est-ce que vous voulez quelque chose? Oui.
Oui, je voulais juste peut-être souligner ce paradoxe qui renforce cette idée qui circule autour de la table et que vient de reprendre Roland Fichet, de la force poétique de l'écriture théâtrale, qui fait que même si il peut exister des dramaturgies, des œuvres, qui ont le dos tourné au monde, parce que là on a beaucoup parlé des faces et des obliques, mais il y a des cas, il faut s'interroger aussi sur le dos tourné. Ce qui vient le plus évidemment à l'esprit, c'est Beckett, bien entendu, mais il est bien évident que même s'il y a cette volonté du dos tourné et du ne rien volonté de ne rien dire ou de rien vouloir signifier. Il y a la création d'abord d'un monde dans l'œuvre poétique, et ce monde-là, bien sûr, a à voir avec le monde lui-même. On a parlé de Godot tout à l'heure, on pourrait parler de Strindbergarty. C'est vrai que Beckett me semble un bon exemple, par exemple, de ce dos tourné, mais qui nous concerne, qui nous regarde malgré tout, et dans lequel on peut retrouver notre monde.
Oui, mais qui nous concerne à retardement. N'oubliez pas combien Beckett a été démoli par la critique de gauche, et je ne cite personne, à l'époque de Godot et de Strindbergarty. Donc il y a des choses qui sont difficiles à lire et qui ne peuvent être lues qu'avec 30 ans ou 50 ans de retard.
Bien sûr, mais même si on pouvait y lire dès l'écriture de, par exemple, de Strindbergarty, c'est Adorno qui lit un rapport avec Auschwitz, avec les camps. Donc même si dès l'abord on pouvait y lire un rapport très immédiat avec l'histoire.
Vous voulez dire quelque chose, monsieur ? On passe la parole devant instamment. Non, mais Daniel.
Oui, non, simplement, par rapport à ce que tu dis, Catherine, sur l'absence de monde chez Beckett, j'ai l'impression quand même que Beckett, à un moment donné, fait un.
C'est pas l'absence de monde, c'est le dos tourné.
Le dos tourné au monde, voilà. Le dos tourné au monde, je n'ai pas cette impression. C'est-à-dire que j'ai plutôt l'impression que ce qu'il donne à entendre, c'est plutôt un rébut. Il est plutôt dans l'ordre de l'effacement. Il fait un détour, si vous voulez, mais pour quand même nous. C'est pour ça que ces pièces, finalement, à un moment donné, ont été assez dérangeantes, parce que les gens n'avaient pas envie de le décoder en tant que tel. Il pose quand même, dans Nathan Godot, la question. Alors, évidemment, comme il est malin, on ne saura jamais qui est Godot. Mais en même temps, énormément de gens ont formulé toutes sortes d'hypothèses. Et c'est vrai aussi, c'est juste aussi, de dire que le dos tourné, c'est vrai que comment écrire après Auschwitz? Et il y a la question de la catastrophe qui se trouve dans fin de partie. Mais suffisamment effacée, si vous voulez, suffisamment lointaine pour que ce type de pièce puisse, à des moments différents, être relue en fonction des événements, je dirais, du monde. Ce qui fait que ce monde est présent-absent, me semble-t-il, mais il a quand même cette énigme est quand même présente, enfin. Sinon, j'ai l'impression quand même que les pièces ne pourraient pas tenir. Si elles étaient vraiment le dos tourné au monde, ou vraiment face au monde,
sans monde
à ce moment-là, tu vois, donc, cela étant, c'est vrai qu'il y a des pièces dont on voit, si vous voulez, qui dénoncent elles-mêmes le monde d'où elles parlent, dont elles parlent, et puis il y a d'autres pièces, évidemment, qui attendent petit à petit des lectures en fonction. Vous parliez tout à l'heure, tu parlais tout à l'heure de Brandt, ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire à un moment donné, une pièce se révèle, dévoile finalement une question, écrite alors il y a 100 ans, 200 ans, une question que le monde se pose aujourd'hui. Et ce qui fait que cette pièce, qui était autrefois une énigme, redevient claire à elle-même, si vous voulez, pour ensuite retrouver une certaine forme d'opacité quand les personnes ne seront plus concernées par ces problèmes du monde.
Si vous voulez bien intervenir.
Ici, le 11 septembre,
on va vous donner un micro.
Moi, je suis un peu gêné quand j'ai un micro. Je suis
pas... Non, mais c'est comme vous voulez, mais c'est parce que tout est enregistré.
Le 11 septembre est monté avec, suivi par la visite du chancelier au pays en Suisse. Est-ce que ça ne rend pas un peu les choses moins obliques et est-ce que ça vous gêne? Moi, je l'avais vu la première. Je l'avais vu à Avignon déjà, je suis revenu, j'ai essayé d'amener un certain nombre de. Enfin, du côté du public, il y a différents publics et moi j'ai bien aimé que la pièce soit suivie justement de la visite du chancelier.
Oui, la décision de jumeler les deux textes n'est pas mienne, c'est le metteur en scène, Jean-François de Meyer, qui m'a fait la proposition, je lui ai dit, ben, faites-le si vous sentez une justification à le faire. Moi, ça m'intéresse de voir ce qui se passera. C'est une connexion qui est certainement fondée dans le thème général de la position de l'individu face à ce qui se passe dans le grand monde, mais je crois qu'il laisse le spectateur non seulement très libre de faire le petit travail dont je parlais, mais qui le force un petit peu à le faire. Alors, pourquoi pas ? Mais je crois qu'il y a eu, dans les publics, une assez nette répartition entre ceux qui trouvaient que c'était exactement ce qu'il fallait faire, et puis d'autres qui disaient « qu'est-ce que ça a à voir avec ?» Ben, après tout, je crois que c'est... Je ne sais pas si c'est pas Vitesse qui disait, mais au fond, le théâtre, il divise, il n'est pas nécessairement...
En vous écoutant tout à l'heure, je l'ai noté, le théâtre divise.
Ah ouais, sûr.
D'autres...
Dans les têtes, en
plus. Il divise. Ouais.
Il faut l'entendre. Si vous voulez, le théâtre divise, alors que les personnes peuvent comprendre que peut-être le théâtre divise parce qu'il y a des pour et il y a des contre, ouais. Mais le théâtre divise aussi dans la tête.
Ouais.
Hein, c'est-à-dire qu'on a des, comment dire, on a des présupposés, on a des a priori, et il y a des choses où on ne veut pas aller. Hein. Et donc on est divisé avec soi-même, pourtant on peut penser, imaginer quelquefois que c'est juste, mais on est tellement divisé avec soi-même, on a tellement une idéologie secrète, si vous voulez, qu'on n'avoue jamais, et bien que finalement, quelquefois on apprécie pas, mais ça divise dans les têtes aussi.
D'autres interventions ?
Oui, madame ?
Moi, j'aurais voulu revenir à la notion du point de vue et vous présenter un regard que vous allez reprendre ensuite. Il me semble que dans votre théâtre, Michel Villaver, ce que vous dites précisément, c'est que vous intéresse la forme théâtrale et qu'il n'y a pas de point de vue. C'est-à-dire que les points de vue sont, coexistent, mais que le point de vue ne préexiste pas à l'écriture de la pièce. Et je me demandais si ce n'était pas ça qui était vraiment intéressant, à savoir que de la même façon que le lecteur ou le spectateur a à édifier son propre point de vue, après avoir lu ou après avoir entendu, vous-même, vous êtes dans cette position. Et est-ce que la justesse, enfin l'écho qui se crée entre vous et le spectateur ou le lecteur, ne tient pas précisément à cette communauté de position ? À cette communauté de position qui fait que, à travers des coupures de journaux, à travers des lectures, vous annoncez tout ce matériel, que vous, témoin qui ne se monte lui-même à travers des effets musicaux, de résonance, etc., est-ce que finalement le point de vue n'est pas un aboutissement plutôt qu'un préalable ?
Quand je me pose la question, ou quand on me pose la question, pourquoi avez-vous finalement adopté la forme théâtrale et abandonné la forme romanesque, puisque j'ai commencé par le roman, je me dis, mais c'est parce que c'est pas moi qui parle, ce sont d'autres qui parlent. Et tout en disant cela, je... Oui, il y a quelque chose qui est profond, je crois, dans la rassurance que celui qui écrit ne parle pas, il fait parler d'autres, ces autres. On peut toujours ensuite faire une sorte d'analyse de est-ce que tout ça ne revient pas à un point de vue qui est celui de l'auteur, mais en tout cas, d'un point de vue opératoire, moi j'ai jamais l'impression de donner un point de vue. Et le fait de ne pas donner un point de vue est un puissant encouragement. Je donne, en fait, la parole à d'autres. Alors, donner la parole à d'autres, c'est admettre que les points de vue sont multiples et que la pièce est composée d'une multiplicité de points de vue, que l'intérêt n'est pas dans aucun des points de vue exprimés, mais dans les intervalles entre les différents points de vue. C'est là que se produit la tension. La tension, c'est là que se produit la déflagration.
Je peux dire un mot ? Je connaissais évidemment cette citation de Villaver disant non, je n'ai pas de point de vue, c'est pour ça que je choisis le théâtre. Je pense quand même que le montage est extraordinairement puissant et je peux le. Enfin, je ne vais pas le faire ici, mais je pourrais. Oui, je vais être cuistre, le prouver. Et d'autre part, je pense que l'ironie dont il se sert de manière constante dans ses effets de montage a un effet absolument extraordinairement puissant. Donc, si vous voulez, dans la mesure, le mot point de vue est un mot trop fort. C'est-à-dire qu'on l'a tellement entendu comme le point de vue unique, dominant, majeur, de celui qui sait tout à l'avance, effectivement, il peut y avoir une équivoque. J'ai jamais pensé qu'il avait ce point de vue-là de l'auteur tout-puissant, délivrant, encore une fois, la bonne parole au bon public. Mais je pense, et c'est vrai dès Tchekhov, par exemple, que l'effet de montage est extraordinairement puissant. Si vous vous dites quel est le point de vue de Tchekhov dans une pièce quelconque, dans Oncle Vania, que je viens de revoir cette semaine, bon, c'est pas évident, mais en même temps, l'effet de montage qui existe déjà, et je pense que Vinaver est d'une certaine manière un héritier de Tchekhov, parce que Tchekhov, c'est pas du dialogue comme ça qui coule, c'est en effet déjà du puissant montage, je pense qu'on entend bien le point de vue. Donc là, on me fait lire six répliques de 11 septembre, je dis immédiatement, c'est du Vinaver. Et pourtant, c'est pas lui qui parle.
Non, mais pas du tout ce que je voulais dire.
Non, mais c'est juste une précision, parce qu'il y a équivoque autour du mot point de vue, donc je
vous parle. Non, mais absolument pas. Il est bien évident que ce que j'essayais de dire, que le point de vue se dégage.
Oui, bien sûr.
Effectivement, le montage, l'ironie, ce que vous disiez, etc. Mis à part que cette ironie, elle a un terme particulier, ça n'est pas l'ironie voltairienne du tout, c'est une ironie qui naît précisément du décalage et de la confrontation. Mmh. Donc, mon sentiment, mais peut-être que je me trompe, hein, c'est que ce point de vue ne préexiste pas à l'écriture.
Voilà.
C'est que le point de vue naît de l'écriture.
Il n'a pas cessé de venir.
Oui, mais effectivement, je n'ai pas.
C'est-à-dire que les choses se montrent en fonction de l'écriture. C'est parce que dans tel matériau, il y a telle résonance, telle écho médical, etc., que ça impose sa forme. Et du coup, il me semble que le point de vue est un aboutissement. Je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas de point de vue.
Oui, on peut dire que tout le processus d'écriture est une recherche d'un point de vue.
Avec un énorme problème, c'est qu'il y a des gens qui n'entendent pas cet effet de montage. Et les résonances dont vous parlez, enfin des gens dans le public. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui lisent certains textes de Vinaver en disant « Ah bon ?»
De quoi ça parle ?
De quoi ça parle ? C'est-à-dire qu'ils ne sont absolument pas sensibles à l'effet de montage. Ce qui est un des problèmes, de la réception de ces textes.
D'autres prises de parole ?
Juste une par rapport à ça, est-ce que, Michel, vous pensez que cet effet de montage, ce geste du montage, est précisément celui qui se substitue au cadrage ? C'est-à-dire que le cadrage étant justement cette focalisation, cette mise en tableau, en cadre, qui oriente le regard et qui, d'une certaine façon, structure un point de vue. Or là, en fait, vous démontez un cadrage. Dès qu'un cadrage possible, en fait, pourrait se mettre en place, vous le décalez par l'effet de montage. En fait. À la renverse, on le voit bien, c'est-à-dire que sans cesse, il n'y a pas vraiment de cadrage possible. C'est-à-dire qu'un, ou alors il y a des cadrages qui sont extrêmement entrecroisés, qui sont extrêmement montés. Et ce qui aboutirait d'ailleurs peut-être à cette idée que, on en a parlé dans d'autres, à d'autres moments, ce serait une en scène tournante ou un espace en rond qui permettrait de mieux de faire circuler ça. Et
Je vais vous répondre de façon oblique. Je pense à, disons, un moment au septembre 2001 qui est celui où les voix de Bush et de Ben Laden s'entrecroisent, et c'est très précisément ce qui a provoqué une étincelle et l'acte de censure.
Tu cherchais.
Justement pas, je ne le cherchais pas. Mais comment est-ce que c'est venu dans l'écriture s'insérer comme ça dans le processus? J'avais donc accumulé des coupures de journaux, notamment ce qu'ont été les propos d'un côté de Bush, de l'autre de Ben Laden, dans l'immédiat après 11 septembre, et il y avait le retentissement de ce qui était, curieusement, à la fois l'opposition de ces deux voix dans leur contenu, et puis la proximité de ce qu'était... des mots qui revenaient dans des phrases qui étaient très semblables, pas tout à fait, etc. Et là,
je ne me suis pas posé de questions de type politique ou de type de... Il n'y avait pas une intention autre que de mettre en résonance ceci faisant partie de l'événement. Bon. Alors, est-ce un cadrage ? Pour moi, je ne me suis absolument pas posé ce type-là de questions. Pour moi, c'était vraiment le matériau qui appelait cette mise en relation de voix. Alors, dans la réaction des diplomates, c'était un dialogue que j'instituais entre deux personnages qui s'appelaient Bush et Ben Laden, évidemment. C'était totalement à côté de la plaque et ça n'a pas été reçu comme ça par les spectateurs.
C'est parce que les diplomates n'ont suivi aucun enseignement sur le dialogue.
Ah, si j'avais été à Paris, ça. Non.
Je réagis à ce que dit Michel. Ce matin, je prenais un café avec d'autres étudiants. Et je citais cet exemple. Je n'étais pas au courant de cette histoire, donc je le raconte. Et je disais en fait que le problème qui s'est posé, c'est peut-on utiliser au théâtre des voix anonymes ou des voix référencées ? Si, et donc l'exemple est le suivant, si on avait affaire dans cette pièce à un combat, à un agot, une dispute, entre un islamiste radical et un évangéliste farouche, aucun problème.
C'est légal, oui.
Le problème vient d'un seul coup de la nomination, si vous voulez, de la dénomination. Et donc, c'est le rapprochement. Et en même temps, ce qui est assez étonnant, c'est que dans les journaux, les télévisions en boucle, hein, ils vous sortaient ça sur toutes les chaînes américaines, les françaises qui font aussi de l'américain, etc., etc. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a su, tout le monde l'a lu. Mais dès le moment où on les met côte à côte, en plus, sur un texte, enfin, avec des noms, d'un seul coup, c'est peut-être la durée, parce que le théâtre a sa durée pour lui, qui fait que peut-être cet événement commence à un peu s'atténuer, mais que cette durée du théâtre, enfin, est peut-être, comment dire, redoutable. Et je reviens vraiment à la question de l'anonymat. Si c'était du coup anonyme, ça ne pose aucun problème.
C'est aussi le problème du recadrage. Il y a une dernière question, je crois.
Oui, justement, à propos de ce problème de l'image et de recadrage, j'aimerais demander à Michel Villevert, dans l'utilisation du matériau, le recroisement des dialogues.
Je n'entends pas, il y a une réverbération. Oui.
Quelle est la part de la musicalité dans l'art de l'histoire en lui-même ? Parce que peut-être que justement dans le dialogue entre Bush et Ben Laden, c'est peut-être le fait d'entendre les voix, le timbre des voix personnelles qui ont provoqué cette espèce d'éclat et de réaction violente. Donc dans l'utilisation, le montage, le pressage des dialogues, est-ce qu'il y a une part de travail musical en quelque sorte ?
Vous savez, le départ de l'écriture de 11 septembre 2001, c'était on ne peut pas écrire sur 11 septembre 2001, on ne peut pas faire une pièce là-dessus. Et bon, ça c'est circonstanciel, j'avais un rendez-vous avec un musicien, avec un perliste, on avait l'idée de faire quelque chose ensemble, et juste dans les heures qui ont précédé le rendez-vous, On devait travailler sur À la renverse, faire peut-être une sorte d'opéra à partir du texte de À la renverse. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on ira ? On ne va pas aller chercher À la renverse quand on est... L'attentat des Tours, c'était 2 semaines avant. Même pas, non, 10 jours avant. Si on faisait ça sur 11 septembre 2001. La Pergis s'est tout de suite dit d'accord. Et puis, on en est toujours là, c'est-à-dire qu'il semble que de son côté, c'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs, il n'a pas trouvé l'angle d'approche de cette pièce de son point de vue de musicien. Et moi, je me dis de plus en plus qu'au fond, la musique, elle est déjà là. Et que le problème qu'il connaît, lui, est qu'il se demande, en fait, si c'est légitime pour lui d'intervenir là-dedans.
Une dernière chose. Hein,
juste, non, mais un complément qui va répondre à votre question sur la musicalité. Je ne connaissais pas cette circonstance avec Georges Apergis. Et je pense que la difficulté pour lui d'un texte qui est déjà musiqué, comme on dit, c'est justement de trouver un angle d'attaque, pas un point de vue, un angle d'attaque. Mais comme je connais la manière qu'a travaillé Apergis, comme c'est un démonteur de première, c'est un sonorisateur de première, à un moment donné, le texte lui-même risque de disparaître et ne plus, comment dire, toucher, puisque l'événement peut s'y passer.
En fait, s'il avait pris contact avec moi, c'est parce qu'il avait envie de faire autre chose que ce qu'il avait fait jusqu'à présent.
Ah oui, bah, bon, tu vois. Ouais.
Alors, c'est... Bien, ce débat passionnant. Mais vous voulez dire un mot, non?
Un débat passionnant, il faut bien mettre un terme. Je terminerai par une phrase que j'ai utilisée pour un volume qui s'appelle « Le bruit du monde », c'est le troisième volume de notre anthologie, où je disais « Que dire du monde en médire, que faire du monde le refaire ». Merci messieurs, merci d'être venus.